Comme. Gravel. Dans le retour.
Boulevard 102.1.
Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui.
Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Oh, le point de max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine.
100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Avec tout ce qu'on entend parler avec le projet de loi spéciale, la loi 106, la guerre entre le gouvernement du Québec, slash la coalition Avenir Québec et Christian Dubé et les médecins, que ce soit les médecins omnipraticiens ou encore les médecins spécialistes. Puis il y a plein d'autres choses qui se passent en même temps. La semaine dernière, je suis tombé sur un article qui date du 24 octobre dernier où deux employés cadres du ministère de la Santé du Québec qui ont allégué s'être fait écarter de leur poste l'été dernier pour avoir soulevé leurs préoccupations face au projet de loi 106 qui vise à revoir la rémunération des médecins. On parle du Dr Emmanuel Britton et Martin Forgue qui travaillaient respectivement comme médecin conseil et directeur général adjoint au ministère afin d'élaborer un nouveau modèle évolutif pour améliorer l'accès aux soins de santé dans la province. Ces gens mentionnent avoir été écartés. On a le plaisir de leur jaser ce soir. Madame Britton, Monsieur Forgue, merci d'être là.
Merci de votre accueil.
Pourquoi avoir décidé de sortir public? Commençons donc avec Dr. Britton. Pourquoi vous avez décidé de sortir public avec le fait que vous vous étiez fait écarter du dossier?
Juste pour clarifier, on n'a pas fait une sortie publique. On a reçu un appel d'un journaliste à l'effet qu'il avait été mis au courant par une source qu'on ne connaît pas vis-à-vis le fait que nous étions effectivement écartés, comme vous le dites, du ministère de la Santé en date du 20 juin. Le courriel en question à laquelle on faisait référence, c'est un courriel à l'interne parce qu'on a des initiatives, comme vous l'avez mentionné en entrée de jeu, pour le modèle, mais aussi je contribuais fortement là, à une initiative provinciale, une table nationale de concertation sur la valorisation de la médecine de famille, donc où siègent le ministère et notre fédération, Dr Bergeron pour le ministère et Dr Amiot, mais où siègent aussi là, toutes les organisations, le collège, les étudiants, les résidents et j'en passe. Donc, c'est un courriel interne qui annonçait effectivement là, la fin de ma contribution en raison de mes inquiétudes avec la loi 106. Et donc, on a répondu à l'appel lorsqu'on nous a demandé si effectivement c'était véridique ce qui se retrouvait dans le contenu du courriel.
Martin Fogg?
Oui. Bien, écoutez, pour mettre vos auditeurs en contexte, j'occupais le poste de directeur général adjoint au niveau de la première ligne et Dr. Britton était médecin conseil auprès de moi. On avait initié des travaux et c'était très, très bien orchestré, je le souligne, par la haute direction du ministère. On nous a annoncé ça le 20 juin, vendredi le 20 juin, à la veille du congé de la Saint-Jean-Baptiste. Puisqu'on avait travaillé depuis 2 ans et demi à un nouveau modèle d'organisation clinique, on aura l'occasion tout à l'heure d'y aller de façon plus approfondie. Bien entendu, on posait beaucoup, beaucoup de questions sur la pertinence du projet de loi 106 et aussi on a posé des questions sur certaines incohérences qu'on y retrouvait et on n'avait pas de réponse. On n'avait pas de tribune à l'intérieur du ministère de la Santé pour discuter du projet de loi 106. Il a été annoncé sans qu'on soit informé. C'est un très petit groupe qui en a travaillé à l'intérieur du ministère de la Santé. Et lorsqu'on a demandé est-ce qu'on puisse avoir des échanges, bien, c'était excessivement difficile. Alors, on a pu, à l'intérieur même de la direction générale, en discuter. Et là, ça commençait à créer de plus en plus de malaise. Ça faisait 18 ans que j'étais en prêt de service au ministère de la Santé. Alors, et on nous a clairement indiqué que le motif de la fin de notre prêt de service était lié strictement au fait qu'on posait des questions au projet de loi 106. Même le sous-ministre m'a personnellement dit qu'il n'avait rien à me reprocher mais que c'était une demande des hautes instances du cabinet du ministre et du sous-ministre en titre de mettre fin à notre prêt de service.
En quoi consistait votre travail, M. Forgue, en tant que directeur général adjoint au ministère avec Mme Britton, qui était médecin conseil? Qu'est-ce que vous décidiez? C'était quoi votre pouvoir dans ce dossier-là?
Bien, ce qu'on avait travaillé depuis près de 2 ans et demi avec Dr. Britton, c'est le statu quo là, que l'on, dans, au niveau de l'accès à la médecine de famille, là, personne ne voulait maintenir le statu quo. Alors, on voulait revoir le mode de fonctionnement et surtout l'accès. Comment on pouvait travailler de façon à assurer un accès à l'ensemble de la population? Le guichet d'accès première ligne était aussi un avancé de ce côté-là parce que vous aviez deux catégories de patients au Québec. Vous aviez ceux qui étaient inscrits à médecin de famille et ceux qui n'étaient pas inscrits à médecin de famille. Puis le guichet d'accès première ligne, ce qu'on appelle les fameux GAP, ça venait atténuer l'iniquité entre un patient qui a un médecin de famille et un patient qui n'a pas de médecin de famille. Ce n'était pas parfait, mais c'était une avancée. Puis qu'est-ce qu'on a constaté à travers ce projet-là? C'est qu'une demande sur deux nécessitait la présence d'un médecin de famille. Alors, ça nous a permis d'avancer dans la réflexion en disant, bien écoutez, en travaillant avec l'interprofessionnalisme, pharmacien, physiothérapeute, et tous les professionnels que l'on connaît, bien, ça nous permettrait d'assurer un accès à l'ensemble de la population. Et l'analogie que l'on faisait, c'était la suivante. C'est le même principe que l'école de quartier. Quand vous arrivez sur un territoire, quand vous arrivez avec vos enfants, vous établissez sur un territoire, vous ne posez pas la question si vous allez avoir accès à l'école, si vos enfants vont avoir accès à l'école. Alors, il y avait un consensus, autant de la communauté médicale que des ordres professionnels, que dorénavant, les gens qui demeurent dans un secteur, une clinique, auront accès en fonction, vraiment au niveau de la clinique sur leur territoire. On avait initié ces travaux-là depuis 2 ans et demi. Et l'autre élément qui est important de retenir, il y avait un consensus. Tout le monde était d'accord au niveau des médecins, et Dr. Britton pourra en parler de façon plus approfondie, que la rémunération devait être changée. Alors, ce n'est pas que les médecins ne veulent pas changer la rémunération. Au contraire, on veut changer la rémunération. Alors, tout ce travail-là a été orchestré par ma direction. Alors, à votre question, c'est vraiment des travaux qui avaient un objectif clair, permettre à toute la population au Québec d'avoir accès dorénavant à des soins et des services au niveau de la première ligne. On avait une approche qui était différente, c'est-à-dire qu'on voulait faire ça, on voulait tester le projet. Les médecins en rivière du Loup étaient tout à fait partants pour qu'on puisse tester le projet. Puis il y avait d'autres secteurs, là, à Saint-Donat, Montréal, où il y avait un intérêt de pouvoir le tester, d'apporter les ajustements et ensuite le déployer à travers le Québec.
Dr. Britton, qu'est-ce qui accrochait selon vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que, bon, vous n'étiez pas aligné avec les décisions du gouvernement?
C'est une très bonne question. Je pense qu'il faudrait demander aux décideurs, malheureusement, qui ont eu cette réflexion-là, parce qu'on, moi, tout ce qu'on m'a fait part, parce que le 20 juin date plus d'un mois après le dépôt du projet de loi 106. Donc, on a quand même œuvré dans les dossiers de valorisation, dans le dossier du modèle, incluant même des congrès, le congrès Première Ligne à Montréal, où on a mis de l'avant de façon concertée avec la Fédération des omnipraticiens, donc avec la Fédération des étudiants, avec les patients, avec les gens de la recherche. Allant même jusqu'au 6 juin, on a pu porter la voix de pouvoir garder un espoir et un optimisme pendant que les gens pouvaient prendre parole comme ils l'ont fait en lien avec le projet de loi 106 et voir une évolution. Le 19 juin, donc la veille de notre congédiement, on était tous rassemblés ensemble à Montréal, dans les locaux de la Fédération, de la FMOQ, quand même dans un environnement où toutes les organisations étaient présentes. C'était quand même un climat tendu, mais les gens se disent les vraies choses. On a déjà surmonté des difficultés dans le passé. Donc, on était tous présents. Le ministre a même fait une présence par Teams, par vidéo, avec une allocution et des discussions, avec la réception d'une résolution qui a été montée par la table pour cesser le dénigrement. Donc, on faisait face à ces difficultés-là pendant plus d'un mois depuis le dépôt du projet de loi 106 pour lesquels Martin et moi n'étions jamais consultés. Je pense qu'il est important de nommer qu'on l'a su par la voix des médias, qu'il y avait un projet de loi à déposer. Puis une fois, comme Martin l'a expliqué, une fois connu, bien là, on cherche à comprendre, à demander des clarifications. Nous, on l'a fait à l'interne. On a accompagné d'autres personnes à l'interne aussi pour poser ces questionnements-là. Donc, tout ça pour dire, avec des semaines de travail dans ce contexte-là, malgré tout, nous, on a vraiment cru, en tout cas, moi, j'ai vraiment cru que le 20 juin, c'était un suivi de la table de valorisation et comment on continue la suite là, avec l'évolution du projet de loi 106. Mais on m'a clairement dit que c'était à cause de mes valeurs, mes convictions en lien avec les éléments, mais ce que je soulevais. Et que peu importe l'évolution dans sa forme actuelle ou l'évolution qu'aurait le projet de loi 106 à terme, que ça ne tenait pas avec mes approches, mes questionnements, mes clarifications, mes valeurs. Et donc, on devait mettre fin à toutes mes contributions, qui étaient à l'échelle quand même de 4 jours semaine du ministère. Martin me connaît très bien. J'utilise chaque plateforme pour souligner l'apport de toutes les autres personnes qui nous entourent, parce que l'apport d'un médecin de famille, entre autres, si je peux parler pour mon cas, de travailler au ministère 4 jours semaine, il y a toute une équipe derrière moi, parce que moi, je suis encore en pratique. J'ai des patients qui ont toléré ce travail-là et le changement d'horaire assez rapide lorsque convoqué. J'ai des collègues qui prennent la relève en mon absence. J'ai une famille, j'ai un entourage qui ont supporté ce travail-là. Donc, du jour au lendemain, de mettre terme à une telle contribution, ça a été assez déchirant. Et nous voilà aujourd'hui avec la loi 2, qui est encore plus déchirante. C'est un choc important.
Monsieur Forgue, Madame Britton était votre médecin conseil. De qui vous répondiez, vous, au ministère? Qui faisait le lien entre vous et le gouvernement de François Legault, Christian Dubé, / Christian Dubé?
Le sous-ministre Dr Bergeron. Dr Britton a été sur toutes les tribunes. Parce que ce que je vous parlais tout à l'heure, tous les travaux qui ont été initiés, bien, il y a eu un consensus. Les cliniciens se sont réunis, les directeurs médicaux là, de la première ligne. Il y en a 16 à travers le Québec là, qui sont le porte-voix des médecins de famille sur chaque territoire. Là. Avec les directeurs médicaux, la fédération, les cliniciens de la Fédération des médecins de famille et l'équipe clinique du ministère de la Santé et en tête Dr Britton, il y avait un consensus à 90% quant au modèle qui était proposé. Ensuite, Dr Britton est allé avec l'accord du sous-ministre, Dr Bergeron, sur, d'ailleurs présenté à l'équipe du ministre Dubé les travaux. Elle a présenté ensuite au niveau des ordres professionnels, là, vraiment présenté à tous les niveaux, là, toutes les tables pour expliquer puis la contribution attendue de tous les professionnels. Alors, c'est Dr Bergeron qui était vraiment le lien entre nous et le ministre. Et parfois, bien entendu, j'étais invité aux rencontres avec le ministre pour répondre à des questions beaucoup plus pointues.
Est-ce que le ministre Christian Dubé était en porte-à-faux avec les conseils de Dr Britton, à votre avis?
Mon avis là-dessus, c'est sur le moyen. Nous, on s'inspirait, comme je vous l'expliquais, sur débuter des projets pilotes pour pouvoir y aller progressivement. Parce que c'est un changement important, non pas pour le volet des cliniciens, parce que là-dessus, là, il est faux de prétendre que ce sont des gens qui sont résistants au changement. On l'a vu au niveau de la pandémie, le réseau de la santé constamment en changement, ça évolue, alors c'est plutôt des gens extrêmement ouverts au changement. La grande nuance, c'était qu'il fallait avoir un excellent plan de communication pour informer la population. Parce que je vais vous donner un exemple pourquoi il faut prendre du temps. Dans la région de Québec, vous avez des gens qui, leur médecin de famille, ils demeurent sur la rive sud, leur médecin de famille sont dans la région de Québec. Ce modèle-là souhaite vise que vous ayez des services de proximité. Ça veut dire, comme je l'expliquais tout à l'heure, l'analogie avec l'école, quand vous demeurez dans un quartier, il y a une kiné, bien, vous êtes associé à la kiné. Mais les gens qui demeurent sur la rive sud, on ne peut pas du jour au lendemain leur dire « vous irez plus voir votre médecin de famille qui demeure sur la ville ». Alors, quand je vous parle d'un certain temps, bien, c'est pour ça, c'est parce que ces gens-là sollicitent leurs médecins qui ne sont pas sur leur territoire. Il faut une grande période de transition pour permettre aux gens de continuer à poursuivre avec leur médecin. Puis éventuellement, lorsque vous déménagez, il y a un changement, bien là, vous êtes associé à la clinique de votre territoire. Quand on regarde ce qui se fait en Ontario, ils ont prévu une période de 5 ans, ce qui est assez particulier. Il y a 2 ans, on était surveillé. On s'alimentait, les autres provinces s'alimentaient des travaux que l'on faisait parce que tout le monde considérait qu'on avait un pas d'avance au Québec par rapport aux autres provinces du Canada. En date d'aujourd'hui, bien là, c'est les autres provinces qui sont en train de nous dépasser.
Vous comprendrez que nous, du côté des patients, moi, je me situe du côté des patients, on n'a pas l'impression qu'on a un pas d'avance, on avait un pas d'avance sur les autres provinces, mais on a chacun nos billets. Là. On a l'impression que des fois, le Québec, c'est comme l'endroit le pire au niveau de la santé, mais vous m'apprenez le contraire. Il y a de ça 2 ans, les gens, d'ailleurs, s'inspiraient de nous. Bon, c'est une petite fierté, peut-être, mais c'est peut-être un signal à la grandeur du Canada comme quoi la santé, ça va pas si bien. Dr. Britton, la réception du ministre Dubé, à l'égard de vos conseils, ça ressemblait à quoi? Est-ce que c'était quelqu'un qui était à l'écoute? Est-ce qu'il vous faisait part de son mécontentement?
Ben, je dis que c'est une très bonne question, mais on l'entend souvent, j'ai l'impression que c'est une très bonne question. Une des choses que j'ai dû démystifier, notamment auprès de mes collègues et mes pairs, c'est cette perception de proximité que, comme médecin conseil au ministère, qu'on aurait avec les autres instances, dont le ministre de la Santé. Moi, j'avais très peu de contacts. C'est très hiérarchique. Lorsqu'il y avait, c'était très encadré avec une hiérarchie, puis des présentations, puis de très courts moments. Comme Martin le disait, moi, je répondais directement à Martin, qui répondait ensuite à Dr. Bergeron, qui ensuite répondait à Daniel Paré, qui ensuite répondait à Christian Dubé. Donc, C'est sûr que pour ma part, je me suis toujours assurée qu'à mon niveau, mes conseils étaient entendus, mais aussi compris, et on était capable de les débattre. Hein. Martin et moi, on s'est déjà pris sur certaines orientations.
C'est normal.
Et avec ça, ben, de part et d'autre, de fortes discussions, de l'évidence, de la littérature, tu sais, aller tirer les meilleures pratiques, mais surtout s'appuyer sur des faits et des bonnes données. Puis, un des grands travaux que je faisais, selon moi, un peu partout, à tout ce que je touche, c'est que je pose beaucoup de questions parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'angles morts. Souvent, et plus souvent que non, je valorise ce qui est bon, ce qui est bénéfique, mais j'amène l'expérience terrain et les expériences de mes collègues et de mes connaissances pour porter aussi les questionnements puis les angles morts. Puis, une des choses que j'ai souligné, que ce soit de vive voix ou par écrit, dans toute rencontre, toute équipe dont je pouvais toucher, parce qu'on ne m'a pas permis effectivement de toucher à tout, c'était ces éléments-là. Je parle à titre d'individu, médecin de famille en pratique, tu sais, qui prend connaissance de la loi 2. Et force est de comprendre que je crois qu'il demeure beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de présomptions. Et pour être quelqu'un en pratique à lire ces conclusions-là, puis les éléments de vrai ou faux, je suis assez ferme à dire que nous n'avons pas en main, personne n'a en main, la totalité des informations requises pour arriver à de telles conclusions puis de telles orientations. C'est pas qu'on ne le veut pas, c'est que ce qui se passe au bureau entre un patient et un médecin est présentement majoritairement que visible entre le patient et le médecin, et ça ne peut pas s'extraire facilement dans des spreadsheets ou dans des dossiers médicaux électroniques à ce jour. Aussi, quand Martin parlait de vraiment mettre de l'avant une planification où est-ce qu'il y aurait des régions vitrines, une région en particulier au Bas-Saint-Laurent qui était sur la ligne de départ là, à l'automne 2024 et qui n'attendait que ça, bien, derrière cette ligne de départ-là était une équipe de communication, mais aussi une équipe pour mesurer, suivre, adapter, avoir les apprentissages de ce qui en découle, puis faire des ajustements. Donc, c'est un peu dans cette facette-là que moi, je me rapportais au directeur. Là, on nomme souvent Martin parce que j'étais rattachée à Martin, mais il y a aussi tout un organigramme hein, qu'on voit qui est présente. Donc, dans toute plateforme que je pouvais toucher avec les directeurs du sous-ministériat de Dr. Bergeron, je soulignais ces éléments-là qui sont complexes. Ça ne peut pas s'expliquer en 2-3 minutes, mais qui sont fort importants parce que je crois que ce que nous vivons présentement avec les impacts dévastateurs de la loi 2 était évitable si on prenait le temps de s'écouter, mais surtout de se comprendre.
Ouais, la force des leaders qui nous entourent, c'est de s'entourer de gens qui vont les compléter, dans lesquels eux, ces leaders, n'ont pas nécessairement d'expérience, puis d'être capable d'être à l'écoute, mais à un moment donné, il faut trancher. Mais encore faut-il avoir la bonne information des gens qui sont, pardonnez-moi l'expression, en dessous, parce que visiblement, ça sent, il y a une belle pyramide. Monsieur Fork, de votre côté, Martin Fork, vous étiez directeur adjoint au ministère de la Santé. De quelle façon vous vous assurez que vous retransmettez bel et bien les propos de vos médecins conseils? De quelle façon vous vous assurez que le ministre en haut, le Christian Dubé, reçoit vraiment les recommandations d'en bas? Est-ce qu'il y a un moyen de le faire? Parce qu'en bout de ligne, si vous dites qu'il y a comme un peu de filtrage, ça se peut que ce soit rendu en haut, l'information ne soit pas aussi claire qu'elle l'était quand elle est partie d'en bas.
Bien, d'abord, vous soulevez deux points importants. Le premier, c'est qu'au cours de ma carrière, je suis toujours assuré d'être qu'on se branche directement sur le terrain. Parce que je suis d'accord avec vous, là, quand on est rendu au 14e étage du ministère de la Santé, on a une vision qui peut être différente. Alors, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'ai toujours mentionné, entre autres, au Dr. Britton, oui, j'assure la transmission, mais j'ai toujours demandé est-ce qu'un écrit puisse suivre aussi. J'ai appris que les écrits restent, les paroles s'envolent. Alors, on s'est toujours assuré que les avis du Dr. Britton ou autres médecins conseils étaient transmis au Dr. Bergeron par écrit pour qu'il puisse s'y référer de façon adéquate. Alors, c'est de cette façon que je travaillais à l'intérieur du ministère de la Santé.
OK. Et est-ce qu'à un moment, quelque part, vous avez parlé vous-même avec Christian Dubé?
Oui, les premières années de son mandat, je participais aux rencontres et ensuite il y a eu une coupure qui s'est installée à l'automne 2024 où là, je commençais à sentir que mes propos dérangeaient. Alors il y a eu une coupure et là c'est le sous-ministre adjoint Dr. Bergeron là, qui assurait la liaison auprès du ministre.
On regarde le projet de loi tel qu'il a été écrit, la loi spéciale aussi qui est rentrée en place. Est-ce que vous avez l'impression que ça a été écrit d'avance?
Oui.
C'est cruel, hein, dit comme ça, mais d'après ce que vous me mentionnez, c'est ma conclusion de simple citoyen, de patient, parce que j'attends assez longtemps dans les hôpitaux que je peux dire que je suis un patient aussi. Tout ça a été écrit d'avance, puis on vous demandait quand même de vous prononcer sur certains dossiers, de quelle façon l'améliorer et tout ça. Donc,
Tout à fait. Puis ce que je trouve le plus malheureux, c'est tout le travail de collaboration qui a été fait au cours des deux dernières années. Vous savez, il y avait un changement majeur aussi dans la philosophie. Quand on appelle actuellement, un premier avoir accès téléphonique à une clinique, c'est un enjeu majeur. Ensuite, d'avoir un rendez-vous, parfois, si ça peut être difficile. Et là, on changeait. Là. Il y avait une volonté. Là. C'était plus la question qu'on posait maintenant aux patients, c'était quel est votre besoin? Et on voulait s'assurer que lorsque le besoin était bien identifié, que la référence, si c'est un professionnel, bien, le rendez-vous devait être attribué en fonction de votre condition. Vous êtes blessé hier au hockey, vous avez un genou amoché. mais on s'assurait que le physiothérapeute puisse vous voir en fonction des délais pour traiter votre condition et non pas vous mettre sur une liste d'attente. Alors, c'est pour ça que quand on dit qu'il fallait prendre le temps, il faut bien évaluer le nombre de professionnels qu'il faut. Premièrement, sont-ils disponibles? Puis aller graduellement pour ne pas créer des attentes. Parce qu'un modèle comme celui-là, il faut qu'il y ait du succès dès le départ. Si on n'a pas de succès dès le départ, puis on recommence à attendre, bien, les gens n'y croiront plus, puis la confiance va s'effriter. Alors, il fallait s'assurer de mettre des conditions gagnantes. Et je n'avais jamais vu, dans toute ma carrière, une mobilisation aussi importante de tous les acteurs du réseau. Les gens étaient enthousiastes. Il faut penser que les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, tous nos professionnels de santé, ils veulent donner les meilleurs soins possibles, le plus rapidement possible. Et en même temps, il faut leur donner les moyens. Et c'est là-dessus qu'on y travaillait, puis il fallait le faire de façon rigoureuse, structurée, pour atteindre cet objectif-là.
Quand vous voyez le projet de loi qui a été mis en place, qu'est-ce que vous auriez changé, vous, Mme Britton, avec ce qu'on peut voir? Là, c'est la guerre actuellement. On parle beaucoup d'argent. Moi, c'est ce qui me fatigue un peu parce que, autant du côté des médecins, moi, je vois des médecins, infirmières, préposés aux bénéficiaires, les gens qui travaillent dans les hôpitaux, je vois des gens qui sont dédiés, je vois des gens qui sont embarqués dans une vocation. C'est pas une job, c'est une vocation. C'est des gens de cœur. Quand je rencontre régulièrement, j'ai la chance de rencontrer des médecins dans mon travail en entreprise. Je les vois avec leur padjet des années 60 sur l'épaule parce qu'ils ont des patients qui peuvent avoir des problèmes puis sont directement sur le gun, pardonnez-moi l'expression. Là. Donc, si pendant l'entrevue, le padjet sonne, ben, ils partent de l'entrevue puis ils s'en vont directement à l'hôpital. C'est pas une job ordinaire, là, mais de voir qu'on en fait une question d'argent, ça me fatigue un peu. Puis en même temps, ben, si on me dit du jour au lendemain, Yann, je te coupe 40 % de ton salaire, Madame Britton, je vais être très honnête avec vous, là, je vais lever la main en disant je suis pas d'accord. C'est clair et net. Qu'est-ce que vous changeriez, vous, Madame Britton, actuellement?
Bien, c'est tout à fait déchirant. Le débat, il n'est pas là. Tout bien, comme vous, là, dans tous les rôles que j'ai tenus, j'ai été médecin responsable de GMF, j'ai été sur le comité directeur là, pour mon RLS, on a mobilisé les gens en temps de pandémie, on était dans les RPA, les CHSLD, il n'y a jamais eu une question, il y a eu une question de reconnaissance du travail accompli, mais ça n'a jamais été une question d'argent. Puis effectivement, quand on ressort des perceptions ou des présomptions qui ciblent la rémunération dans sa totalité, blague à part, là, j'ai jamais touché un demi-million de dollars dans ma rémunération, là, mais il n'est pas là le débat. C'est sûr que là, maintenant, en faisant face à la loi, avec ce qu'ils mettent de l'avant et les calculs et les estimations que vous avez devant vous et certainement que certains médecins vous interpellent, encore là, le bottom line qui les inquiète, ce n'est pas le bottom line qu'il va avoir dans sa poche, c'est le bottom line de la survie de son cabinet, de l'embauche de l'infirmière, de l'embauche de la secrétaire dans un marché qui est quand même assez difficile à maintenir. Donc, c'est ce volet-là qui ressort par rapport à la rémunération. Donc, je suis d'accord avec vous. Moi, dans tous les rôles, dans toute ma mobilisation, l'engagement que j'ai eu à mobiliser tout le monde pendant la pandémie pour les couvertures dans les endroits les plus précaires et dangereux, dans le GAP, parce qu'on a déployé le GAP en Outaouais, c'était des liens tissés main dans la main. C'était une question de capacité et d'offrir des soins de qualité avec le temps et les ressources qu'on avait, pas une question de rémunération à l'échelle de X, Y, Z. Donc, le débat, il n'est pas là. Si je reviens à votre question sur qu'est-ce que je changerais, la réponse la plus importante, c'est qu'on se questionne à ce jour si le moyen était nécessaire. Quand on vous partage les travaux d'engagement de mobilisation allant jusqu'au terrain, ce n'est pas Martin et Emmanuel qui l'ont fait, c'était ces liens tissés-là avec toutes les parties prenantes sur vers où on pouvait aller au Québec pour desservir le patient avec le patient au cœur qui devenait lui-même un membre de décision, pas de un à un avec le professionnel, mais même dans la structure de gouvernance. Tu sais, comment qu'on organise ça, là, c'est quoi les soins qu'on a besoin? Après ça, on s'est dit, ben, changer le mode de rémunération, on dit ça souvent dans le discours public. Tout le monde était d'accord de changer le mode de rémunération. Moi, il y a 10 ans, là, je travaillais à Toronto, Ottawa. J'ai travaillé dans un autre modèle de rémunération. Tout n'est pas parfait, mais on était tous d'accord qu'il faut revoir le modèle de rémunération parce que les champs de pratique, l'infirmière, elle peut en faire plus, puis la nutritionniste peut en faire plus, puis le pharmacien peut en faire plus, puis chapeau, c'est ces avancées-là quand vous avez dit, tu sais, au Québec, on dirait que tout va mal. Mais non, on devançait d'autres provinces dans plusieurs de ces secteurs-là.
C'est bon de le mentionner. C'est bon de le mentionner une fois de temps en temps parce que des fois, en tant que contribuable, là, quand on se rend compte qu'on donne plus d'un milliard au système de santé, puis on remarque que bon, ça n'a pas de l'air à s'améliorer année après année. Quand vous nous dites qu'on pouvait être meilleur parfois que certaines autres provinces, c'est rassurant un peu comme payeur de taxes.
Bien, ça a été mon constat premier. En revenant au Québec,
ouais.
De Toronto et Ottawa. C'est des secteurs différents, mais effectivement, je trouve qu'on ne valorise pas et on ne donne pas assez de visibilité aux bons coûts puis les avancées. Exact. Donc, nous, on s'appuyait sur ça. On ne recréait pas un nouveau modèle. On faisait évoluer ce qui était bon de la pratique qui est exemplaire dans la plus petite clinique, allant jusque mettre de l'avant les gros outils, là, comme les gros outils informatiques qu'on a besoin pour pouvoir être efficace puis se parler entre nous. Donc, quand on nous a déposé le projet de loi 106, plusieurs leaders, médicaux, de recherche, etc., d'organisations ont pris la parole, ont nommé les risques et périls de certains éléments, ont questionné la validité puis l'évidence. T'sais, ça sort de où, là? Qu'est-ce qui se retrouve là qui va faire en sorte qu'on se sent confiant que c'est la bonne direction à prendre? Puis moi, je tenais à dire, écoutez, je ne suis ni avocate ni comptable, mais si ça prend un projet de loi pour permettre un changement de rémunération, mais pas à l'échelle qu'on l'a mis, là, avec les pénalités, les indicateurs de performance reliés, etc., mais juste pour que le médecin soit payé, par exemple, pas à chaque fois qu'il doit voir le patient, mais que oui, si je fais un appel, si j'envoie un courriel, si je parle à l'infirmière pendant 10 minutes, si j'appelle le spécialiste, si le pharmacien m'appelle, puis tout le monde se met à contribution, bien, il faut le reconnaître, ce temps-là. Fait que quand on dit d'ajouter une composante de capitation, de tarif horaire, d'acte, si ça prenait un projet de loi, bien, limitons ça à ça. Parce que personne n'était contre ce changement-là. Tout le monde reconnaît la valeur de donner des soins à un patient puis de travailler en équipe sans devoir forcer le patient à venir me voir dans un rendez-vous puis de limiter à un problème par visite, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des visites que nous voyons malgré les anecdotes qu'on entend qu'il faut corriger.
Non, mais on se l'est fait expliquer. Ça. Je me l'ai fait expliquer en ondes la semaine dernière parce que les auditeurs nous écrivaient, Mme Britton, en disant « Ben là, je me suis fait dire par mon médecin que c'était un problème par rendez-vous puis pour un deuxième problème, ben, il devait prendre un autre rendez-vous. » OK, c'est correct. Mais quand j'ai demandé au médecin, le médecin me dit « Ben, c'est assez simple. J'ai 15-20 patients dans ma journée ou peut-être même 30, puis je dois prioriser tous les patients. Fait que si je vois qu'il y a des petits bobos secondaires qui peuvent attendre encore versus l'autre qui s'en vient, qui a un cancer, puis c'est encore plus urgent que je le rencontre, ben je vais dire, regarde, aujourd'hui, c'est un, tu reprendras un rendez-vous pour ton mal de hanche, puis on va se revoir dans 2-3 semaines sans problème, mais moi, j'ai d'autres patients par la suite. » Il y avait comme un tri que le patient faisait. Mm. Bon, ça a une certaine logique, là. Est-ce que c'est tout le temps ça? Peut-être, mais il faut l'expliquer, ça. Des fois, quand un médecin dit « Écoutez, je suis conscient que vous avez plusieurs petits bobos, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ce qui est prioritaire, puis après ça, ben, vous reviendrez dans 2 semaines. » Quand ça s'explique, les gens vont être, entre guillemets, patients.
Mais puis c'est la qualité, hein? Parce que c'est pas la question, c'est pas un bobo par rendez-vous, c'est comment est-ce que je peux t'offrir une écoute, un accueil, un droit de parole, que tu puisses te déshabiller sans te sentir comme complètement bouleversé, plonger dans des sujets sensibles, que ce soit dans la santé mentale ou physique. 15 minutes, là, c'est très court. On peut l'étendre à 30 minutes, mais il y a des tu sais, quand on va voir le psychologue, on passe une heure avec le psychologue. Puis moi, ça peut être très régulier et fréquent que dans mon bureau, je vais adresser un saignement vaginal, une migraine, puis des symptômes dépressifs, puis ils sont cédulés pour 20 minutes.
Non, non.
Je veux dire, si j'y touche tous, je vais les effleurer. Puis ça, le patient ne mérite pas ça du tout. Donc, ce n'est pas juste une question de les passer rapidement, c'est aussi une question de qualité et d'aller en profondeur pour répondre aux vrais besoins du patient. Puis ça, c'est pas un changement de... c'est pas purement la loi... En tout cas, la loi 2 ne nous donnera pas ça. Donc, je questionne le moyen. C'est-tu nécessaire? Surtout quand on vous partage que les gens étaient sur la ligne de départ dans certaines régions pré-loi. Si ce l'était, ben, on aurait dû se limiter à ce qui était requis pour permettre un modèle de rémunération qui est à la hauteur du modèle de soins qu'on développait tous ensemble. Puis ça, on se l'est toujours dit, on ne parlera pas d'argent jusqu'à ce qu'on sache ce qu'il y a besoin de, comme modèle pour le patient, puis on va adapter la rémunération pour que ça réponde aux besoins du patient dans le modèle. Mais là, on est rendu à quelque chose de tellement plus loin et tellement dévastateur avec la loi 2. Puis les éléments, je veux dire, à un moment donné, on se dit, tous les experts ont parlé sur le projet de loi 106, ils ont tous déposé des mémoires, des consultations. Ce que je tiens à clarifier aussi, c'est que toutes ces instances-là qui ont parlé, c'était tous des collaborateurs dans les travaux de valorisation et du modèle. On n'avait pas besoin d'un PL 106 pour se rassembler puis discuter. On travaillait déjà ensemble, puis ils continuaient à travailler sur ces initiatives-là locales, allant jusqu'à l'échelle provinciale. Puis après ça, arrivons avec la loi 2, qu'on s'est dit, bien, on a entendu du ministre et de ses équipes qu'il va y avoir une écoute. Je ne sais pas s'il y a eu une écoute et une mal compréhension, mais toutes les organisations québécoises et maintenant sur même le plan canadien se positionnent à dire que c'est complètement incompréhensible et que ça va nuire à l'accès à la qualité des soins pour nos patients. Mais malgré ça, il persiste. Et je demeure à ce jour dans un état d'incompréhension totale avec mes collègues, avec tous ceux qui étaient engagés. Plusieurs veulent crier fort que ça suffit de reprendre le dialogue.
Ouais.
Parce que là, les effets dévastateurs qui se ressentent, certains sont irréversibles. Puis c'est pas pour faire peur aux gens. On n'est pas dans la peur. On est toujours dans l'accueil. On a toujours été des ambassadeurs, moi première, pour garder espoir, comme vous l'avez entendu avec les développements des dernières années. Et à ce jour, on ne voit pas la fin. Si je peux me permettre, moi, je suis sur une région frontalière, je suis en Outaouais. On a perdu 4 chiffres dans les derniers jours et le décompte continue. Il y a eu un temps pas si lointain à travers les travaux de valorisation et d'attractivité. On avait réussi à séduire plus qu'une dizaine de médecins de l'Ontario à venir porter main forte en Outaouais. C'est des discussions de 1 heure, 2 heures, 3 heures, tête à tête, pour les recruter, pour déjà, pré-PL 106, les rassurer que les mesures coercitives qui existent au Québec n'auront pas un impact sur leur qualité des soins. On avait réussi, on en avait d'autres. Impossible aujourd'hui.
C'est catastrophique.
De renverser cette vapeur.
Catastrophique, Dr. Britton. Puis c'est le monde à l'envers. Hein. Du côté de l'Ontario, on a un premier ministre qui est assez weird, là, M. Ford, qui répond lui-même au téléphone puis qui jase avec les médecins québécois pour qu'ils puissent s'en venir en Ontario. Et de l'autre côté, on a une hiérarchie épouvantable avec Christian Dubé où des recommandations de la part de ses propres médecins ne semblent pas être tenues en compte. Et si c'est des recommandations qui vont à l'encontre de ce que lui pouvait penser avec les gens qui l'entourent, bien, on les sacre à la porte. C'est assez particulier comme situation. Puis je vais vous dire, Mme Britton, le moral des troupes n'est pas très élevé. Là. J'ai des médecins autour de moi qui sont autour de 70 ans, qui travaillent encore 60 heures, 70 heures par semaine, qui disent, moi, là, je fais ça pour me désennuyer, là, mais là, à un moment donné, je suis tanné, puis je vais quitter. C'est dramatique. C'est des médecins qui ont plusieurs centaines de patients là, qui ont confiance en eux, puis avec qui ils sont depuis des années et des années. À un moment donné, il va falloir que Christian Dubé revienne un peu sur ce qu'il a mis en place. Est-ce qu'ils vont le faire? Ça, on l'espère. Monsieur Forg, est-ce que vous avez... Monsieur Forg, je suis en train de vous angliciser votre nom. Est-ce que vous êtes inspiré un peu du modèle au privé? Est-ce que vous avez regardé un peu au privé qu'est-ce qu'on faisait de bien? Qu'est-ce qu'on pourrait amener du privé vers le public?
Moi, au niveau du privé, non. Je ne l'ai pas fait. Ce que je me suis assuré, c'est que les cliniciens qui m'entourent puissent s'inspirer de ce qui se faisait ailleurs dans le monde. On avait aussi des professionnels qui ont vérifié aussi ce qui se faisait à travers le monde là, pour que le modèle proposé puisse répondre vraiment aux besoins. Mais ça vient pas. Nos sources d'information, on s'alimentait en niveau public.
Ouais.
Je sais pas si le docteur Bleten veut compléter
Parce que
l'information
ce
que.
matin, je regardais, j'étais dans le Journal de Québec, Journal de Montréal, puis il y a un article qui est intéressant, une dermatologue qui pratique depuis 4 ans. Elle a un territoire extrêmement vaste à couvrir. Elle a sa propre clinique. Elle mentionnait que 50-55% de l'argent qui rentre, ben, elle doit payer ses employés, elle doit payer sa clinique, et année après année, ben, elle fait de moins en moins d'argent. Et ce que j'ai trouvé hallucinant dans l'article du Journal de Montréal, c'est que on lui conseille, ses pairs lui conseillent d'injecter du Botox parce que c'est plus payant. Attendez un peu, c'est une dermatologue, là. Elle est là pour détecter les cancers. Et là, on lui dit, ben, si tu vas injecter des babines, ça se peut que tu gagnes mieux ta vie et que tu aies une qualité de vie supérieure. Bon Dieu, nos valeurs sont rendues où, M. Forgue?
Ouais. Là, on va faire la distinction parce que votre question mérite vraiment qu'on puisse la dire auprès de vos auditeurs. Nos cliniques médicales, première ligne, deuxième ligne, tous les frais sont à la charge des médecins. Alors, c'est eux, comme entrepreneurs, qui doivent assumer l'ensemble des frais. Et vous avez, comme la clinique La Croix, des cliniques qui sont privées-privées. La différence, elle est importante, c'est que dans le docteur Lacroix, bien, vous devez payer aussi les honoraires des médecins. Dans les cliniques où nos médecins sont entrepreneurs, les autres en première ligne, donc sont responsables des coûts, bien, les honoraires des médecins sont payés par la RAMQ. Alors, pour le patient, il n'y a pas de coût, mais les charges, c'est ça qu'il faut faire attention quand on parle de salaire, c'est que le médecin reçoit une rémunération, certes, mais il doit payer pour ses infirmiers, les infirmières, le personnel, secrétaire, etc. Et quand on parle du programme GMF, qui est un programme que le gouvernement, dans le fond, il achète des services, il dit aux cliniques à première ligne, ben, nous, on veut atteindre tel objectif, on veut acheter des services via le programme GMF. Mais il y a des conditions, vous devez atteindre telle et telle cible, puis d'un autre côté, on va financer l'ajout de personnel. Mais c'est une petite, très petite partie de la contribution du système public dans ces cliniques-là, parce que la grande majorité des frais sont à la disposition des médecins. Nécessairement, avec ce qui s'en vient, ce qu'on risque de voir, mais c'est ce que vous venez de mentionner, c'est-à-dire une pratique qui va faire en sorte que les médecins vont peut-être favoriser des activités la rémunération est plus importante pour s'assurer qu'ils fassent l'équilibre. On a quand même plusieurs médecins qui de plus en plus quittent la gestion de leur clinique parce que c'est de plus en plus complexe. On voit des entreprises, puis ça, c'est mauvais d'avoir des entreprises devenir propriétaires de cliniques parce qu'elles n'ont pas la même optique. Ils sont dans une optique de rentabilité, alors que nos médecins sont propriétaires. Bien entendu, tout le monde vise la rentabilité, mais ils sont beaucoup plus dans une volonté d'un équilibre
Mais
budgétaire.
quand c'est rendu plus payant au Québec d'injecter des. J'ai peut-être des préjugés, mais quand c'est rendu plus payant d'injecter du Botox dans le visage des messieurs puis des madames que de détecter des cancers, je ne veux pas vivre dans cette société-là. Là. Je veux que les médecins détectent des cancers, puis oui, peut-être pour l'esthétique, mais. Ça n'a pas de bon sens que les gens disent, hey, moi, je vais avoir une meilleure qualité de vie si je vais injecter des lèvres que si je détecte des cancers. Faut pas les perdre, ces dermatologues-là. Puis là, on me parlait de salaire ce matin dans le Journal de Montréal. Puis là, on faisait un lien avec les radiologistes qui gagneraient peut-être trop cher selon eux. Fait que c'est encore là, c'est une guerre de salaire. Mais vous aviez quelque chose à rajouter, Mme Britton, je vais vous laisser compléter. Mais cet article-là, moi, il me jette à terre.
Ben, j'ai pas vu l'article. J'essaie de rester à l'affût. Mais c'est sûr que la pratique, Martin l'a bien expliqué, c'est sûr que la pratique privée pour des actes qui ne sont pas payés par le réseau public, c'est une chose. Je comprends qu'il y a eu des initiatives de la part du gouvernement pour cesser l'exode vers le privé, privé pour des services que nos citoyens, citoyennes pourraient recevoir au public. Moi, ce que j'ai connu en Ontario, c'était très différent dans le sens que ça existe, cette médecine privée-privée-là, mais beaucoup, quand on regarde, puis ça c'est public, là, le nombre de médecins ou le nombre de cliniques existantes est significativement moindre. Puis une des choses, n'étant pas encore avocate comptable, là, mais une des choses que je voyais, c'est qu'il y avait un plafonnement qui avait été mis. Vous savez, c'est si on veut faire une consultation chez son médecin de famille, puis moi, on me paye 60 $, bien, c'est pas normal que dans une clinique privée-privée, que le médecin ou la clinique peut charger dans les 100, 200, 300 $ pour le même service que le citoyen recherche, pour lesquels il y a de la difficulté d'avoir accès des deux côtés. Là, il y en a un, bien, il y a un enjeu effectivement de financier, puis de l'autre, bien, il y a un problème d'accès. Une fois qu'on rentre, on a la qualité. Mais le service comme médecin, que tu fasses un examen périodique ou un dépistage de quelque chose dans mon rendez-vous, bien, on est tous formés par la même école, avec le même code de déontologie, puis le même devoir d'avoir les meilleures pratiques pour nos patients. Donc, c'est un débat de longue haleine, mais c'est sûr que, pour revenir à votre point, il faut absolument pas qu'on perde ces médecins-là, qui sont libres quand même à un certain niveau, de moins en moins au Québec. Mais c'est très peu, parce que je suis un peu décousue, là, mais moi, je me replonge à quand les gens ont choisi la médecine et se sont investis corps et âme. J'en connais très, très peu, sinon je peux en compter un là, sur mes doigts de mes étudiants résidents en pratique des deux côtés de la rivière qui seraient principalement pour pouvoir avoir des hauts salaires et un statut. Tous les autres que je connais, c'est comme vous avez mentionné, des 40, 60, 80 heures, très peu pour la reconnaissance. C'est surtout pour le devoir et ce privilège que nous donnent nos patients à pouvoir les accompagner dans leur trajectoire de soins pour soit les maintenir en santé ou pour les soigner. Donc, quand quelqu'un fait ce choix-là, sachez qu'il y a plusieurs raisons et raisonnements qui le font, mais la grande majorité des médecins, des étudiants ne sont pas admis en médecine avec cette visée-là d'aller injecter du Botox, comme vous dites. Ceci dit, blague à part, on injecte quand même du Botox pour des raisons thérapeutiques,
de santé, oui.
par la RAMQ. Non. Mais pour le côté esthétique, effectivement, là, c'est pas où on veut retrouver nos médecins, puis je suis tout à fait d'accord avec vous.
Monsieur Forgue, avez-vous toujours un lien avec le ministère de la Santé? Est-ce que vous êtes toujours fonctionnaire?
Alors moi, je suis cadre supérieur du réseau de la santé. Il y a 18 ans, Dr Michel Bureau, qui était sous-ministre adjoint à l'époque, je travaillais à l'hôpital de l'Enfant Jésus Saint-Sacrement, j'étais gestionnaire et elle m'avait contacté pour que je puisse remplacer une directrice. Le ministère de la Santé se permet de faire, on appelle ça des prêts de service. Alors, vous avez un poste dans un hôpital et vous transférez au ministère de la Santé, le ministère rembourse la totalité des frais rattachés au salaire. Alors, d'où la notion de prêt de service. Alors, je suis toujours cadre supérieur dans le réseau de la santé et je suis en attente. Là, il y a des discussions qui se sont animées dans les dernières semaines là, pour que je puisse occuper une fonction à Santé Québec là, parce qu'ils doivent me réaffecter là, dans un poste similaire au niveau de Santé Québec.
J'imagine que c'est pour ce qui est des relations de travail, ça ne doit pas être évident. Là. Vous devez vous sentir un peu trahi par l'employeur, là.
On le sait, là, c'est l'absence de reconnaissance. Hein, au cours de ces 18 ans-là, j'ai orchestré avec les équipes le déploiement des centres de répartition des demandes de services, qu'on appelle les CRDS. J'ai travaillé beaucoup avec les mécanismes d'accès, les guichets d'accès première ligne. L'amélioration au niveau de la chirurgie, parce qu'au début, quand on m'a sollicité, c'était vraiment pour la chirurgie. J'ai fait la tournée de tous les blocs opératoires du Québec. pour bien comprendre les enjeux, autant en Abitibi qu'aux Îles-de-la-Madeleine, que dans la région de Montréal. On a fait des avancées aussi de ce côté-là dans la gestion des listes d'attente. Quand je suis arrivé au ministère de la Santé, les listes d'attente n'étaient pas représentatives, puis il était à tout près de 190 000 patients qui étaient en attente de chirurgie. On a abaissé ça en bas de 100 000, qui est tout à fait... On opère 450 000 personnes au Québec par année. Alors, on avait le temps de rouler 4 fois la liste d'attente. Et c'est normal d'avoir une liste d'attente parce qu'il faut être préparé. Alors, on ne peut pas voir le médecin et être opéré le lendemain. Il y a des examens physiques qu'on doit faire, etc., etc. Mais il faut que le délai d'attente soit médicalement raisonnable. Alors, on devrait être capable au Québec d'opérer tout le monde à l'intérieur d'un délai de 6 mois et moins.
On va se le souhaiter. On va se le souhaiter. Mais vous avez été employé cadre du ministère de la Santé du Québec et vous êtes fait écarter de votre poste de travail parce que vous avez soulevé des préoccupations face au projet de loi 106. Comment vous allez être capable de faire des recommandations sur les paliers, pour les paliers supérieurs, quand vous vous rendez compte que vous pouvez perdre votre emploi parce que le ministre de la Santé n'est pas d'accord avec vos préoccupations? C'est assez... vous allez avoir un petit questionnement, j'imagine, là.
Quand je regarde ce qui se passe dans les dernières semaines, je crois que tout le monde... J'espère que tout le monde en tire une leçon. On aurait dû en parler beaucoup plus à l'intérieur du ministère de la Santé parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont soulevées et qui actuellement sont sans réponse. Alors, j'espère que tout le monde va en tirer une leçon. Moi, j'ai aucun problème avec le fait et je respecte totalement ça. Nos élus sont là pour représenter la population, puis c'est à eux de décider. Ce qui est inquiétant depuis 2 ans au ministère de la Santé, c'est qu'on ne peut plus discuter lorsqu'on a un avis différent. C'est un peu la philosophie du « tu dois croire ou mourir » et ça, je trouve ça inquiétant. Mais je suis confiant, je suis un éternel optimiste, alors je suis confiant que tout ça va revenir à la raison et qu'on pourra reprendre des discussions à l'interne, qui doivent rester à l'interne, mais on pourra faire des débats respectueux. On peut ne pas partager, mais respecter les avis de tout le monde. Et encore une fois, c'est à nos décideurs, nos hommes et femmes en politique qui doivent décider les orientations qui doivent être prises.
Docteur Britton, bon, vous avez été médecin conseil dans ce dossier-là. Vous avez fait part, vous aussi, des préoccupations face au projet de loi 106. Vous êtes fait écarter. C'est quoi la suite pour vous? Puis comme on est diffusé à la grandeur du Québec avec cette entrevue-là, c'est le fun, puis en plus, ça s'en va sur Internet. Et quand on prononce le nom de Christian Dubé ou la Coalition Avenir Québec ou François Legault, ben, ça s'en va directement au 3e étage à Québec et les gens concernés prennent part de ce qu'on a dit sur eux. Quel message vous auriez à envoyer au ministre de la Santé, Christian Dubé?
J'y arrive. tous étaient d'accord que le statu quo n'est pas ce que méritait la population et n'est pas ce que mérite la population du Québec. On est et on peut s'entourer des experts, des citoyens, des citoyennes. Il faut prendre le temps de s'écouter et surtout de se comprendre. La priorité, on a la même priorité, je crois, c'est de bâtir un système de santé qui est efficace, mais qui est humain puis qui est durable. Puis ça n'arrivera pas du jour au lendemain. Puis on comprend les pressions que peuvent vivre tous et toutes. L'urgence, nous la vivons sur le terrain avec vous, au quotidien, avec nos patients. Donc, d'être capable d'offrir un accès à 100% de la population et une qualité des soins, c'est réel pour tous. Le système, par contre, ou les décisions qui s'appuient, là, il doit tenir compte de l'expérience des équipes sur le terrain avec les patients, puis les données probantes. Il faut questionner le data, les données, pour pouvoir se doter de prendre le risque, c'est une chose, mais ça peut être un risque calculé parce que, comme vous avez dit, on ne peut pas attendre à tout jamais d'avoir toutes les réponses, mais pouvoir laissé déployer et faire naître des régions vitrines, ça nous permettait de faire ça et de l'éclairer et de le mesurer et de s'adapter. Donc, pour moi, le deuil collectif qu'on est à faire aujourd'hui, puis les enfants partis, C'est imaginer les progrès là, que la population québécoise, les soignants, les réseaux et même eux, les décideurs, auraient déjà pu constater si la réforme humaine là, qu'on entamait tous ensemble aurait pu naître en 2024 au lieu de se restreindre en parallèle dans un petit groupe fermé qui croyait que le moyen, c'est un moyen coercitif. Puis les gens qui nous écoutent des autres provinces nous le disent. Ils reviennent encore avec l'exemple de la carotte puis du bâton. Puis ils regardent le Québec puis ils disent on a ressorti le bâton puis ailleurs on sort la carotte. Puis là, je ne parle pas de carotte, de signe de dollar. On parle du travail et de respecter, de valoriser, de mettre en valeur les acquis. Donc, je nous invite, comme le fait mon collège et toutes les autres instances, de mettre une pause. Je crie fort, mais je crie jamais en public. Ça suffit. Reprenons pré-PL 106, pré-loi 2 et laissons naître la réforme humaine qui était déjà entamée. Nous étions ensemble, nous avions eu des journées ensemble de 135 et plus représentants citoyens, municipalités, secteurs scolaires, le ministère, le groupe d'experts mandaté par le gouvernement. On est tous collectivement ensemble pour amener et mener le changement. Laissez-nous faire le travail collectif et mobilisateur qu'on devait se faire, que mérite la population, et on va pouvoir y goûter ensemble. Là, on a un grand pas de recul, mais il faut absolument que la fracture qu'on vit, là, la blessure qu'on est en train de vivre avec la loi 2, doit cesser de s'agrandir. Et jour le jour, cette blessure-là, elle grossit et on a besoin de la guérir.
Dr. Britton, Emmanuel Britton, ça a été un plaisir de vous avoir avec nous pendant une heure. Je le considère comme un privilège. Même chose pour ce qui est de M. Forgue, ex-directeur adjoint au ministère de la Santé. Ça a été un plaisir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Je vous souhaite de
Merci
passer une agréable soirée. Meilleure des chances pour la suite à vous deux. Et pour ce qui est des auditeurs, on se retrouve après la pause. Merci de rester là.
Marceau, le soir. Boulevard 102.1 célèbre ses 10 ans avec la Gravelle édition 10 ans Boulevard. Une bière blonde lager à 4,4% légère, dorée et ultra rafraîchissante. Brassée par Malco, la brasserie de Charlevoix reconnue pour ses produits de qualité. Une partie des profits des ventes sera remise à la bouchée généreuse pour aider les familles dans le besoin. Procure-toi la Gravelle dès maintenant en quantité limitée chez Chaloux, panier extra, à la brasserie Malco située au marché Jean-Talon, ainsi que d'autres détaillants de la grande région de Québec. Cheers! Chez Anti-Rouille Métropolitain, c'est le grand blitz avant l'hiver. Protégez votre véhicule contre la rouille et prenez rendez-vous sur antirouille.com. Anti-Rouille Métropolitain, grouille avant que ça rouille.
Si tu vas à l'événement de réduction d'inventaire d'équipements neufs de JLD Lagu, ton concessionnaire John Deere, toi aussi tu pourrais siffler en travaillant.
Le 11 novembre prochain, Fromagerie Victoria soutiendra la cause du jour du souvenir en remettant 2 $ par poutine vendue au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Soutenez la cause en savourant la meilleure poutine. Chez Fromagerie Victoria, le 11 novembre, on pense à nos vétérans.
Si vous cherchez une assurance pour votre syndicat de copropriété, sachez que Desjardins Assurances assure les entreprises depuis plusieurs décennies. Vous vous demandez ce que ça change? Ben, imaginez si Gilles était le président de votre syndicat de copropriété depuis aussi longtemps.
De mémoire, selon l'article 16, alinéa 3, paragraphe 2B du règlement.
Tu connais la convention par cœur?
Ben oui, pas toi?
Oui.
Voilà, Desjardins Assurances Entreprises, c'est pas d'hier qu'on assure. Ça, ça rassure. Demandez une soumission.
Les 6 et 7 novembre, ne manquez pas la vente d'entrepôt chez Canabec. Découvrez des viandes de canard, cerfs, bisons et bien plus encore. Payez le prix du gros sur nos viandes de spécialité. Ce jeudi et vendredi chez Canabec, au 115 rue des Grands Lacs à Saint-Augustin.
Hey Simon, Luc est tombé de l'échafaudage. Viens, j'ai besoin d'aide.
C'est parce que je suis vraiment dans le jus.
Il y a du sang partout, vite!
Écoute, je le connais bien cet échafaudage-là, puis c'est pas son genre de blessé de mort. Faudrait peut-être que Luc arrête de dramatiser.
Ben là, faut faire quelque chose.
Bah... J'aime mieux pas m'en mêler. C'est pas vraiment de mes affaires.
Si on réagissait face aux blessures physiques comme on le fait trop souvent face aux blessures psychologiques, on verrait à quel point c'est absurde. Ensemble, agissons pour que nos milieux de travail soient sains pour tous. Un message de la CNESST.
Vous êtes parent d'ado et vous vous sentez dépassé. En fait, vous vous sentez comme la majorité de parents qui nous contactent. À tes jeunes parents, l'adolescence, on connaît ça et on vous accompagne pour que vous vous sentiez mieux outillé. Service gratuit, confidentiel et sans jugement pour parents d'adolescents. Noël,
Noël. Visitez le plus grand centre de décoration de Noël au Canada et offrez-vous un temps des fêtes unique. Noël Amel, vous serez emballé. Maintenant ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
L'information locale est essentielle. Elle contribue au maintien d'une saine démocratie. Pour savoir ce qui se passe chez vous, pour prendre des décisions éclairées, vous devez avoir accès à une information fiable et à l'image de votre collectivité. La Fondation des coops de l'information et le Soleil sont là pour assurer la pérennité de cette mission. Ensemble, nous garantissons une voix forte pour l'information locale de qualité. Votre soutien fait toute la différence. Visitez lefondation.lescoops.ca pour plus d'informations.
Dans la vie, il y a deux sortes de monde. Ceux qui connaissent et aiment Décathlon et ceux qui n'ont pas encore découvert notre marque. Avec une vaste sélection de produits pour plus de 60 sports, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de chaque instant dehors cet hiver. Trouvez innovation et qualité à des prix abordables, le tout sous un même toit. Venez visiter le magasin Décathlon de Sainte-Foy ou du Peps de l'Université.